Alors bonjour à tous. J'aurais souhaité ajouter le terme sociologie des disciplines ou sociologie des contenus d'enseignement au titre de la table ronde. Alors c'est un mot-clé ou une expression qui ne figure pas explicitement hein, dans les programmes de concours. Et pourtant, j'aurais voulu développer mon intervention sur ce que cette sociologie peut apporter aux futurs enseignants. J'espère être dans les clous de la commande si j'arrive à dégager quelques points sur cette question. Avant de développer cette question, je voudrais faire plusieurs séries de remarques. Cette sociologie des contenus d'enseignement, des disciplines ou des savoirs scolaires est une sociologie qui est relativement neuve. C'est-à-dire que les contenus d'enseignement ont très longtemps peu intéressé les sociologues, la sociologie française, à la différence des anglo-saxons, et je renvoie bien évidemment sur ce point aux travaux de Jean-Claude Forquin. Qui a présenté ce qu'il est convenu d'appeler une sociologie du curriculum, c'est-à-dire en fait un courant qui considère les contenus enseignés comme une sélection de savoirs et de connaissances qui existent par ailleurs dans la société et qui analyse les processus, c'est-à-dire les conflits entre des groupes sociaux porteurs d'intérêts souvent divergents, conflits au terme desquels des compromis sont noués et qui aboutissent à l'inscription d'une catégorie de savoir ou de pratique dans les programmes d'enseignement. Alors, ce courant a donné lieu à des travaux en France à partir des années 80, mais c'est une branche qui est restée relativement marginale au sein de la sociologie. Pour autant, bien évidemment, les contenus d'enseignement sont au cœur des débats sociaux actuels. Parmi les thèmes les plus polémiques, on peut citer tout ce qui concerne par exemple les méthodes d'apprentissage de la lecture, la mise en place d'un socle commun de connaissances et de compétences, la définition d'une culture commune qui se heurte à la diversité des publics scolaires. Bon, tous ces débats occupent les premières places. On pourrait encore citer toutes les questions qui tournent autour de l'interdisciplinarité, qui interrogent la bivalence des enseignants, qui manifestent leur inquiétude. Comment l'école prend-elle ou va-t-elle prendre en charge toutes ces éducations à l'informatique, la santé, l'environnement, le développement durable, etc. Alors, on observe un décalage qui étonne entre l'acuité de ces questions et plus fondamentalement de la question de ce que l'école est censée enseigner et la relative rareté ou méconnaissance des travaux de sociologie qui s'y rapportent. On peut penser que ces travaux dérangent quand ils établissent, par exemple, le rôle de l'école et du facteur curriculaire dans la production des inégalités, ou quand ils mettent en lumière la variété des pratiques enseignantes en fonction des publics scolaires. Autre constat surprenant que l'on peut faire, si l'analyse didactique des disciplines constitue aujourd'hui le cœur de la formation des maîtres, l'aspect socio-historique des curricula était jusqu'à présent quasi absent des cursus de formation. Alors comment on peut expliquer cette mise à l'écart de la sociologie des savoirs dans la formation des enseignants? Jean-Claude Forquin, dans son dernier ouvrage, avait lancé des pistes en disant que cette mise à l'écart pourrait être le signe d'une tension entre le caractère relatif des savoirs scolaires, la nécessaire déconstruction des évidences à laquelle le regard sociologique amène, et puis de l'autre côté la nécessaire conviction de la valeur intrinsèque de la chose enseignée qui est constitutive de l'identité professionnelle. Il peut être en effet déstabilisant pour un futur enseignant de prendre conscience que la présence même de sa discipline dans les programmes scolaires est contingente et soumise à évolution. Autre raison, il est vrai que bien souvent, on oppose les approches didactiques, historiques et sociologiques des savoirs scolaires, souvent les présentes comme étant en conflit. Et pourtant, comment de nouvelles matières sont-elles introduites ou disparaissent-elles? À quelles conditions un savoir peut-il être enseigné? Ce sont des interrogations qui sont communes à l'histoire, à la didactique et à la sociologie. Pourtant, on oppose souvent les courants de recherche. Alors, il est vrai que le regard du didacticien, je suis allée très vite, très grossièrement, excusez-moi, qui s'attache à la transposition des savoirs savants en savoirs scolaires, peut a priori paraître en conflit, en tout cas peu compatible avec celui du sociologue qui s'intéresse aux conflits entre groupes sociaux. Et pourtant, les frontières sont mouvantes et parfois difficiles à identifier. Les didacticiens, évidemment, tiennent compte également de la complexité sociologique du processus de transposition. Les sociologues, quant à eux, pour faire le lien avec l'histoire, mènent des analyses qui sont également historiques. Donc, faut-il donc vraiment, quand on aborde la question des contenus d'enseignement, systématiquement opposer les principes d'approche? Alors, cette opposition, elle soulève plusieurs séries de questions. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'une méconnaissance réciproque des travaux des historiens, des sociologues ou des didacticiens? Est-ce que ce ne sont pas plutôt les séparations institutionnelles qui expliquent l'absence de référence aux disciplines voisines? Est-ce qu'il y a véritablement une incompatibilité entre ces trois courants? Est-ce qu'on a des démarches, des angles d'attaque qui sont véritablement exclusifs? Plutôt que d'opposer les principes d'interprétation, ne peut-on pas penser plutôt que la spécificité des objets, des contextes, appelle tantôt le regard de l'historien, tantôt celui du sociologue, ou tantôt celui du didacticien? Par exemple, si l'approche didactique fonctionne, même si elle peut être complétée pour des matières comme les sciences qui se réclament d'un savoir savant, d'autres matières, à d'autres époques de l'histoire, peuvent réclamer une analyse différente. Et sur ce point, on peut remarquer l'évolution progressive de la curiosité des chercheurs, puisque leurs premières investigations ont concerné les disciplines nobles, entre guillemets, les matières de base de la culture écrite, la maîtrise de la langue écrite, la grammaire, les mathématiques. Et puis l'intérêt des chercheurs s'est élargi par la suite vers des matières moins installées, des contenus moins installés dans l'institution scolaire, comme les matières artistiques ou l'informatique, ou même le théâtre. Donc ce déplacement, finalement, a favorisé aussi l'évolution des modèles explicatifs eux-mêmes, puisque la référence au savoir savant, qui va de soi dans le cas des mathématiques, doit désormais être complétée par la référence à des pratiques sociales qui ne sont pas nécessairement l'objet d'une formalisation de type académique ou universitaire. Donc finalement, pour se saisir de matières comme la technologie, par exemple, la didactique, on viendra évoquer les pratiques sociales de référence. Cette évolution ouvre du même coup un nouveau champ d'analyse, celui du rapport des élèves, notamment en fonction de leur origine sociale, à ces pratiques sociales de référence, ou celui, si l'on préfère, du rapport entre les pratiques sociales des élèves et les savoirs enseignés, champ qui est abordé ici ou là, mais qui reste encore largement à explorer. Alors, je voulais prolonger cette intervention par, finalement, essayer de dégager l'intérêt d'une réflexion sociologique sur les contenus d'enseignement dans la formation des enseignants. Quel intérêt peut présenter cette approche et peut-être quels débats sociaux la perspective socio-historique contribue-t-elle à éclairer? Alors, en fonction du temps dont je dispose, je développerai deux ou trois points. Un premier intérêt, c'est de comprendre comment s'est constituée sa discipline d'enseignement. Je pense que c'est essentiel pour les futurs enseignants. La sociologie des savoirs est utile pour qui veut comprendre l'inscription dans les programmes d'enseignement de tel ou tel objet. Alors, selon quel mécanisme se réalise cette inscription, il est évidemment impossible d'établir des généralités. Néanmoins, je voudrais lister un certain nombre de points auxquels prêter attention. Le premier, ce sont les configurations d'agents qui appartiennent au monde de l'école, mais également aux sphères économiques, politiques, culturelles. Configuration d'agents qui portent une demande sociale relative à la scolarisation de savoirs ou de pratiques. L'action de ces groupes de pression, dans un deuxième temps, est filtrée par les contraintes institutionnelles de fonctionnement de l'école. Parmi celles-ci, bien évidemment, on tient compte du rôle des professeurs en poste, mais aussi des professeurs d'autres spécialités dans le choix des contenus d'enseignement. Il faut également prendre en considération la constitution du corps enseignant, le système de recrutement et les différents concours dans la programmation et le maintien d'une matière dans une filière donnée. Alors, cette tendance générale recouvre une variété de processus d'inscription dans le temps et selon les objets scolaires, et cette variété finalement permet d'établir que la légitimité des contenus est une construction sociale qui n'est pas acquise selon les mêmes voies et pour chacun, et qui prend du temps. Le deuxième intérêt d'une approche socio-historique des contenus, c'est la réflexion qu'elle contribue à mener autour du découpage des disciplines. L'étude de la constitution d'une discipline passe nécessairement par l'analyse de ses relations avec les disciplines voisines. De nombreux travaux historiques l'ont montré et ont montré combien les frontières sont toujours relatives, objets de lutte. Le français, le latin, la philosophie, qui apparaissent aujourd'hui comme des disciplines bien identifiées par des programmes, des horaires, des professeurs dotés d'une certification correspondante. Il n'en a pas toujours été ainsi. Je pense en particulier, bien évidemment, aux travaux d'André Chervel qui l'ont montré. La sociologie des curricula, de son côté, va aborder la question des découpages disciplinaires en tant qu'analyse des enjeux de la modification des contenus d'enseignement. La contribution pionnière en ce domaine est due à Frank Musgrove qui, en 68, considère les matières d'enseignement comme autant de systèmes sociaux organisés en communautés qui veillent sur leurs frontières et confèrent une identité à leurs membres. Je le cite, « Les matières sont des communautés sociales entre lesquelles existent des rapports de compétition et de coopération qui définissent et défendent leurs frontières, exigent fidélité de la part de leurs membres et leur confèrent un sentiment d'identité. » Alors, ces premières analyses ont été prolongées dans les années 80 par les travaux de Cooper sur les mathématiques, par exemple, et par les travaux de Goodson, qui s'intéressent aux résistances des enseignants face à l'introduction de nouveaux contenus d'enseignement, particulièrement quand ceux-ci remettent en question les séparations disciplinaires traditionnelles. Et Goodson a très bien décrit les processus de transformation des matières en mettant l'accent sur les intérêts divergents des groupes concernés et soulignant leur résistance à l'introduction des nouveaux contenus et des changements. Par exemple, il s'est préoccupé de l'introduction de nouvelles matières comme l'environnement dans les programmes scolaires et il a souligné toutes les implications conflictuelles que cette introduction supposait à l'égard des disciplines existantes comme la géographie ou la biologie. Alors, ces questions sont évidemment d'actualité. Je vais l'illustrer très rapidement par une recherche en cours. Je pense en particulier à tout ce qui concerne au collège les projets interdisciplinaires qui ciblent en particulier les sciences. Au milieu des années 90, tout un ensemble de mesures a manifesté dans les programmes une volonté de rapprocher la technologie, les sciences physiques, les SVT et les mathématiques. Par exemple, dans un BO de 2005, on peut prendre connaissance d'une introduction commune à l'ensemble des disciplines scientifiques au collège, texte qui a évoqué les thèmes de convergence et qui prévoit l'expérimentation d'un enseignement scientifique et technologique intégré en classe de 6e. La loi d'orientation de 2005, de son côté, a donné un cadre à ces expériences interdisciplinaires. Et il se trouve que j'en suis plusieurs avec une collègue de mon laboratoire, plusieurs expériences menées au sein de l'Académie de Nantes, menées en collège et lycée, qui visent à associer les sciences aux disciplines technologiques ou techniques et aux mathématiques. Un point commun à ces expérimentations est l'absence ou la réticence des mathématiques à intégrer ces projets. La spécificité de la discipline est revendiquée par les enseignants à travers, par exemple, le refus de pratiquer des mathématiques appliquées, nous disent-ils, ou des mathématiques un peu ludiques, ou encore de servir d'outils. Cette résistance a été analysée par la sociologie des curricula. Les mathématiques peuvent ici être qualifiées de disciplines, dont les caractéristiques ont été mises en évidence, c'est-à-dire une certaine forme d'indépendance, une centration sur les savoirs en texte, qui écarte les applications pratiques. Une prévalence pour une culture désintéressée, un horizon d'enseignement supérieur, une stratégie de maintien, etc. Donc, dans ce contexte, les projets interdisciplinaires qui supposent de nouveaux regroupements, de nouveaux découpages des savoirs, peuvent être perçus comme une déstabilisation des rôles, une menace pour l'identité intellectuelle et sociale des professeurs en place. Alors, ces difficultés récurrentes d'intégration de certaines matières dans ces projets, comme les mathématiques, interrogent. Par-delà la dimension didactique, n'est-ce pas la forme disciplinaire qui freine la possibilité de tels projets ? La référence au savoir savant, la constitution d'un corps d'enseignants spécialistes, doté de références universitaires et seuls dépositaires de leur spécialité, sont des caractéristiques que les enseignants sont prêts à défendre et que les projets interdisciplinaires peuvent ébranler. Ce n'est certainement pas un hasard si ce sont les matières les moins installés, entre guillemets, dans l'enseignement secondaire, comme en témoigne leur histoire, comme la technologie en collège, par exemple, qui sont les fers de lance de ces projets. Alors d'autres enseignants de mathématiques au parcours plus atypiques qui ont subi des reconversions professionnelles, qui ont commencé des parcours d'ingénieurs par exemple, n'ont pas la même attitude. Alors il faudrait interroger cette hétérogénéité évidemment et la mettre en rapport avec leur formation. Je reprends ici une analyse d'Alain Kuzniak qui suggère que les jeunes enseignants, dont la référence est d'emblée universitaire, éprouvent peut-être des difficultés à envisager les mathématiques en prise avec le réel. Alors, je ne voudrais pas donner l'impression par cet exemple de prôner une démarche interdisciplinaire qui, si elle reste valorisée par l'institution, n'est pas forcément souhaitée par les enseignants qui, encore une fois, craignent, entre autres, les conséquences en termes de suppression de postes, d'extension des spécialités, etc. Je ne sais pas si encore quelques minutes ou si je...
Oui, 2 minutes.
2 minutes. Alors, juste le troisième point d'actualité qu'une approche socio-historique des contenus intégrer la formation des enseignants contribuerait à éclairer. C'est tout le débat autour de la notion de compétence qui est assez vif actuellement. Alors évidemment, la notion de compétence n'est pas nouvelle. C'est d'abord développée dans le monde du travail, s'est substituée à celle de qualification progressivement dans les années 70, est apparue dans le monde de la formation des adultes avant de faire son entrée dans la formation initiale. Depuis la fin des années 90, on le sait, les processus sociaux de sélection de ces compétences s'analysent dans un contexte international, avec la sélection par le Conseil européen de Lisbonne en 2002 de 8 compétences clés. Alors, la focalisation sur les compétences critériées au sein d'organismes internationaux peut inquiéter. Françoise Ropé, par exemple, craint la culture de la performance, de la fiabilité. La logique de résultats mesurables, comparables au risque de la standardisation des savoirs de base. On peut douter par ailleurs du bien fondé d'une approche commune aux différents pays de la notion de compétence, approche qui est décontextualisée des contextes nationaux. En France en particulier, on oppose souvent les disciplines aux compétences, ou plutôt on admet difficilement que l'acquisition des compétences ne soit pas liée directement à la transmission disciplinaire. C'est en effet une des difficultés de l'introduction de cette notion dans les curricula. Elle bouleverse nos perceptions disciplinaires traditionnelles. On peut se demander si on assiste actuellement à un abandon des logiques disciplinaires au profit de logiques transversales, interdisciplinaires, etc. Et on peut se demander également si pour ce faire, on observe de nouvelles compétences de la part des enseignants qui pratiqueraient le travail en équipe, le travail en commun, voire le travail partagé, c'est-à-dire la co-animation. Encore une fois, si la compétence du travail en équipe figure explicitement dans le cahier des charges de la formation des maîtres, il conviendrait par l'histoire de relativiser le caractère nouveau de ces pratiques. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ce que je voulais faire simplement, c'est montrer quel pouvait être l'intérêt d'une approche sociologique des contenus d'enseignement et puis voir quels points cruciaux cette approche pouvait contribuer à intégrer et quelles réflexions elle pouvait susciter chez les enseignants en formation.